quand un fait divers provoque le débarquement d'une centaine de journalistes en 24 heures et qu'on a les honneurs de la télé pendant des semaines. L'essor pérenne n'appartiennent pas à la jeunesse riche des centres-villes qui grandit entre cafés et lycées ultra sélectifs, ni à la jeunesse populaire des banlieues, symbolisée par le streetwear, la tchatch et le béton. La jeunesse périurbaine, celle des cars de ramassage et des CAP, n'a pas d'emblème. C'est une jeunesse silencieuse, qui ne fait pas parler d'elle, qui bosse tôt et dur, alimentant les secteurs de l'artisanat et les services à la personne dans les campagnes et petites villes où elle est née. Si ces classes populaires rurales maritimes forment ce que Christophe Guihuy appelle la France périphérique, alors l'affaire Laetitia est un meurtre chez les petits blancs, ou plus exactement entre petits blancs. Un homme du quart monde en situation d'échec s'étant attaqué, par frustration machiste ou par vengeance sociale, à une fille du quart monde courageuse et bien intégrée. Des cas sociaux se sont entretués, soupire-t-on dans la bonne société nantaise, 2 mois avant que l'affaire Dupont de Ligonnès ne vienne rappeler que le milieu des notables catholiques abrite aussi son lot de perversions sanglantes. Ce tableau sociologique explique le sentiment d'étrangeté que je ressens en contact de Jessica. Issue de la bourgeoisie parisienne à diplôme, je n'ai pas grandi dans la misère alcoolisée. Je n'ai pas été retirée par un juge des enfants. Je n'ai pas fréquenté un lycée professionnel. Je me déplace en métro plutôt qu'à scooter. Pour moi, que caractérisent des mots-clés comme « judéité »,« livre » et « cosmopolitisme », Laetitia incarne l'altérité, celle des Français de culture chrétienne, avec un nom facile à écrire, enraciné dans une région, produit d'une lignée, fut-elle celle des Atrides. Je ne sais qui, d'elle ou de moi, est le plus anormal. Nous avons de la distance vis-à-vis de nos morts. Alors que la souffrance d'autrui nous happe, nous habite, nous hante, ne nous lâche plus. Pour nous-mêmes, il n'y a plus rien à faire. Notre blessure, c'est nous-mêmes. Le drame est la routine de notre vie, notre névrose apprivoisée. Et nous y sommes habitués, comme à une infirmité. Il y a, dans la vie de Laetitia, 3 injustices. Son enfance, entre un père violent et un père d'accueil abusif. Sa mort atroce, à l'âge de 18 ans. Sa métamorphose en fait divers, c'est-à-dire en spectacle de mort. Les 2 premières injustices me laissent désolé et impuissant. Contre la 3e, tout mon être se révolte. Chapitre 22. Du criminel comme être humain. Vendredi 28 janvier 2011. Alors que les magistrats instructeurs refont le trajet de Laetitia entre l'hôtel de Nantes et la route de la Rogère, et que les plongeurs de la gendarmerie fouillent le canal de la Martinière sur la rive sud de la Loire, le frère de Meillon déclare, dans Presse Océan, « Si Tony a fait ça, il ne dira rien. » Europe 1 annonce que des éléments matériels ont été retrouvés au Caspeau, qui laissent penser que le corps de Laetitia ne se trouverait plus dans son intégrité. La mort de Laetitia n'est alors pas confirmée, et le démembrement n'est, pour les enquêteurs, qu'une hypothèse de travail. Le juge Martineau commente cette fuite. « J'ai trouvé ça abominable pour la famille. » Vers 13h, Xavier Roncin tient une conférence de presse devant la gendarmerie de Pornic. Il regrette que Meillon, toujours muré dans son silence, réponde aux questions des juges par un sourire goguenard, et de conclure « Nous nous passerons de son aide, nous retrouverons le corps de Laetitia. » Là encore, il faut mesurer la force des mots, le risque que prend Xavier Roncin, malgré les usages gourmets qui s'imposent d'habitude aux représentants de l'État. Même si les enquêteurs ne disposent d'aucune piste, d'aucun indice, le procureur de la République vient de donner sa parole. Si Meillon n'a pas enterré le corps, il l'a immergé. Après avoir cherché tous azimuts dans la Loire, au fond des étangs, dans les ruisseaux, au bord des plages, en mobilisant une armée de gendarmes et de maîtres chiens, les enquêteurs ciblent les zones de confort, c'est-à-dire les endroits rassurants pour Meillon, ceux qui lui évoquent de bons souvenirs. Leur raisonnement est le suivant. Meillon a eu très peu de temps, quelques heures dans la journée du 19 janvier, pour faire disparaître le corps. Cette action si horrible, il l'a effectué dans un état de fatigue et de stress inhabituel. Il n'a quasiment pas dormi, il n'a pas le temps de